Vous intervenez au 01 45 24 7000. Luc nous appelle des Pays de la Loire. Bonjour Luc.
Oui, bonjour. Bonjour madame.
Bonjour.
Nathalie. Oui, je suis intéressé par votre discours. D'ailleurs, je note, enfin un petit préambule, que je suis halluciné par l'inculture scientifique de tous vos collègues des Républicains par rapport au réchauffement climatique, l'anthropocène, etc. Quand des historiens se pencheront là-dessus, il y a vraiment des questions à se poser. Donc, je vais revenir juste sur un point qui me paraît quand même vraiment hallucinant, c'est Notre-Dame-des-Landes. Le projet, au-delà de sa pertinence économique qui est complètement hors sol, c'est de voir que pour les gens qui seraient droits dans ce pays-là, la seule chose qu'ils ont à faire, c'est voter Front National, puisque c'est le seul parti à droite, il y en a d'autres aussi, qui est vraiment opposé, avec des arguments d'ailleurs qui sont souvent pertinents. Je suis pas, moi, pas seulement pour ce parti-là, mais et donc c'est la seule solution, la seule alternative, c'est de voter Front National pour se débarrasser de ce projet. C'est ça que je comprends, moi.
Question, donc, remarque et donc question. Nathalie Kosciusko-Morizet. Merci, Luc.
Bon, alors, d'abord, moi, je pense que voter Front National n'est pas une solution, ni pour ça, ni pour quoi que ce soit. Concernant Notre-Dame-des-Landes, en fait, si vous voulez, il y a un problème de fond. Est-ce que le projet est ou pas pertinent? Mais il y a surtout, sur ce sujet-là, un problème d'action de l'État. C'est-à-dire, c'est un projet qui a été décidé il y a 15 ans, et qui, depuis 15 ans, traîne de recours en inaction et en indécision. Moi, quand j'ai fait... participé comme secrétaire d'État au Grenelle de l'environnement, je me souviens qu'on a fait la liste des projets dont on considérait qu'ils étaient décidés et sur lesquels, du coup, on revenait pas, on se posait même pas la question, on considérait que c'était ce qu'on appelait un coup parti, et Notre-Dame-des-Landes était dedans, et on était en 2007. Et donc moi, ce qui me choque le plus, au-delà du débat de fond, sur lesquels il y a des vrais arguments de part et d'autre, ce qui me choque le plus, c'est qu'on n'arrive plus à agir, tout simplement. On donne une image. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça qui pousse les gens aussi au Front National sur ce dossier, au-delà de savoir si les gens sont pour ou contre. C'est-à-dire qu'on donne une image de l'incapacité de l'État à prendre une décision une fois pour toutes.
Vous voulez dire que ça aurait dû être fait, le chantier lancé beaucoup plus tôt ?
Je vais vous dire, je pense qu'il y a vraiment des arguments pour et des arguments contre. Donc moi, je pense qu'il y a des gens de bonne foi, de qualité, et qui ont travaillé des deux côtés. Mais ce que je trouve choquant, c'est qu'aucune décision n'a été mise en œuvre. Il y a 10 ans, c'était considéré comme décidé, ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, 10 ans après, c'est reconsidéré comme décidé. Tous les recours sont échus et c'est toujours pas fait. Et c'est ça le plus dramatique, c'est cette image d'inaction de l'État, d'incapacité, d'impuissance de l'État. Mais ça rend les gens fous, qu'ils soient pour ou qu'ils soient contre, ça rend dingue. Parce qu'en plus, si on voit l'impuissance sur ces sujets-là, on se dit qu'il est bien sur autre chose. Je veux dire, ça donne une image de nous-mêmes, de nous collectivement, aussi.
Un référendum a été organisé en juin. Est-ce que vous considérez qu'après le vote positif qui a résulté de cette consultation, le débat est tranché?
Oui, mais le débat était aussi tranché après les recours. Le débat était aussi tranché il y a 10 ans.
Les recours n'étaient pas épuisés. Il y a eu beaucoup de recours en justice.
Ça fait vraiment... Je vous dis, c'était dans les coups partis du Grenelle de l'environnement. Ça fait 10 ans que ça dure. On peut être pour ou on peut être contre. Mais personne ne peut rester insensible au fait que l'État mette 10 ans à mettre en œuvre ses décisions.
Yann nous appelle de Calais. Bonjour Yann.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Bonjour Nathalie, bonjour à de France Inter. Ma question est très simple. Je voudrais savoir si en France, les réfugiés ont le droit d'avoir une information totale sur leur droit à l'asile en France. Nous, ce qu'on constate sur le terrain, alors c'est pas une généralité non plus, mais il y en a quand même un bon paquet de gens qui sont envoyés dans des CAO, qui savent pas du tout ce qui leur arrive, et on fabrique des déboutés en fait. Donc est-ce que ça va continuer? Et voilà. Voilà ma question.
En fait, sur la question des réfugiés, et d'ailleurs je vous remercie d'avoir posé la question avec le terme réfugié, parce que je pense que une des dimensions du problème, c'est que le terme migrant est devenu un terme, une espèce de terme générique dans lequel il y a des situations très différentes. Derrière la question des réfugiés, vous posez clairement la question du droit d'asile. Moi, je trouve qu'il faut qu'on soit beaucoup plus radical, beaucoup plus clair sur ce qu'on fait. Il faut qu'on dise clairement que le droit d'asile, c'est un droit. C'est un droit qui est inconditionnel. C'est pas on a la possibilité de... Non, le droit d'asile, c'est un droit. Mais c'est un droit pour des gens qui sont vraiment en situation de demande de l'asile. Et qui, quand on ne remplit pas les justifications, quand on ne remplit pas les critères, doit trouver une suite qui est l'éloignement. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on fait rien bien. L'information, l'accompagnement des demandeurs ne se fait pas dans de bonnes conditions, vous le savez bien puisque vous êtes à Calais. Mais quand les dossiers sont rejetés, il n'y a pas non plus d'éloignement. en fait, l'essentiel des demandes de droit d'asile qui ont été rejetées ne donne pas lieu à éloignement. Autrement dit, quand on fait pas les, on fait les choses bien à aucun étage, on fait pas les choses bien vis-à-vis des gens qui arrivent, qui sont en situation de demande, qui pour certains nombres ont des droits légitimes à pouvoir demander l'asile, ont des raisons légitimes de demander l'asile, mais on fait pas non plus les choses bien pour pouvoir éloigner ceux qui n'étaient pas dans ces critères-là, qui pour certains ont cherché à abuser du droit d'asile, et donc on a une politique qui est finalement décevante et décourageante pour tout le monde. Et moi, ce que je propose, c'est qu'on soit plus radical, plus net, si vous voulez, d'un côté et de l'autre, qu'on dise clairement, parce qu'il y a une ambiguïté aujourd'hui là-dessus, qu'on dise clairement, oui, le droit d'asile est inconditionnel. Le droit d'asile est inconditionnel. Quelqu'un qui fuit la guerre, quelqu'un qui est en situation de danger dans son pays d'origine, il a droit à être accueilli en France. Mais non, le droit d'asile, c'est pas les portes ouvertes à tout le monde et n'importe qui, et quand on est débouté, on est vraiment raccompagné chez soi. Aujourd'hui, vous avez 85 ou 90% des déboutés qui, en fait, ne sont pas raccompagnés chez eux.
Thomas Legrand là-dessus.
Oui, tout à l'heure, vous avez répondu un peu globalement et pas concrètement sur la proposition de Bernard Cazeneuve de trouver des places d'hébergement pour les 12 000 personnes qui sont à Calais. Il faut démanteler le camp de Calais, vous le demandez, tout le monde le demande. On propose par exemple 1 800 places dans une région de 8 millions d'habitants, la région la plus riche, la deuxième région la plus riche de France. Et Laurent Wauquiez dit c'est une folie, 1 800 places pour des gens qui sont éligibles au droit d'asile. On sait qu'il y a déjà 5 000 réfugiés qui sont à travers la France dans des petits centres entre 25 et 200 personnes.
Beaucoup en région parisienne d'ailleurs.
Beaucoup en région parisienne. Et que ça pose en fait pas de problème sur le terrain, ça se passe plutôt bien. Est-ce que c'est responsable de dire que c'est une folie d'accueillir 1 800 personnes
en Rhône-Alpes, il faut démanteler la jungle. Ça fait pas de doute. Un grand camp comme ça, en fait, ça n'offre pas de perspective. On voit bien que ça n'apporte pas de solution.
Il est peuplé de réfugiés permanent. Éligibles au droit d'asile.
On voit bien que c'est une espèce de problème, de série de problèmes permanents. 80%. Et il s'y passe par ailleurs des choses effroyables. C'est-à-dire qu'en dépit des efforts qui ont été faits, la jungle, elle porte vraiment son nom. Et les chiffres que vous donnez, évidemment, si vous voulez, ils appellent leur propre réponse. Bien sûr que dans une région de plusieurs millions d'habitants, on peut faire face, bien sûr qu'on peut faire face à l'accueil de quelques centaines de personnes. En revanche, il y a une dimension que vous ne soulevez pas et qui est dans la tête de tout le monde, qui est que les gens se disent, c'est seulement le début et ça s'arrête où. Et tant qu'on n'a pas répondu à cette question-là, tant qu'on n'a pas apporté une réponse, et je vous parle pas seulement des élus, là ils relaient des inquiétudes de la population.
Dans la première réponse, vous n'aviez apporté que la preuve, vous aviez parlé de cette politique à long terme.
Et
vous
n'aviez
pas dit que c'était possible.
Non, mais attendez, voilà. C'est une politique.
Vous voulez dire que c'était possible.
C'est une politique pas seulement à long terme, c'est une politique à court terme. C'est-à-dire que vous ne résoudrez pas le problème de l'inquiétude et du rejet des populations tant que vous n'offrirez pas de perspective en leur disant clairement qu'est-ce qu'on fait pour la vague migratoire. Ils voient la télé, ils voient qu'il y a des millions de gens qui veulent venir.
Le rejet de la population en disant c'est une folie d'accueillir 1 800 personnes non plus.
Mais d'accord, enfin, je pense qu'on peut tomber d'accord sur le fait que l'accueil, il se fait si les gens voient où ça va. Si on leur dit voilà qui on va accueillir et dans quelles conditions. La France est un pays accueillant. Regardez, dans les années 70, on a accueilli les boat people. Vous savez, les boat people, c'était plus de 100 000 personnes. Et ça s'est fait très rapidement. Ça s'est fait sur 2-3 ans. C'était une époque différente parce qu'on était en croissance économique, il n'y avait pas les mêmes angoisses en termes d'emploi. Mais enfin, c'était pas évident non plus. Des gens quand même qui venaient de loin, une culture très différente, c'était plus de 100 000 personnes. Ça s'est très bien passé. Et il y a eu un engagement formidable de la population. Il y a eu, vous savez, à l'époque, il y a beaucoup de personnes qui ont été accueillies dans des associations, dans des foyers, qui ont été accompagnées. Il y avait un système de parrainage. Ça s'est bien passé. La France, c'est un pays qui a une tradition en la matière. On sait faire ça, on peut faire ça. Mais pour ça, il faut que les gens comprennent où on va. Et il faut que ça ait une limite en quelque sorte. Si vous voyez tous les jours à la télé qu'il y a des millions de gens qui veulent venir et vous dites on n'a pas les moyens, on n'a pas les emplois, mais les gens ont peur et du coup ils ne veulent pas le premier millier non plus. Et c'est très naturel comme réaction. Je veux dire, c'est une réaction normale de l'âme.
Oui. Au Standard Inter, Pierre qui nous appelle de Versailles. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour à tous. Une question pour vous, monsieur Cohen. Est-ce que monsieur Cazeneuve vous a dit combien de policiers avaient été sanctionnés comme il avait promis
oui,
avant-hier?
Oui, il a fini par nous le dire. Il l'a fait par un communiqué à l'AFP. Alors, vous le trouvez facilement sur la toile. Je pense que ça a été donné à l'antenne de France Inter, mais il l'a dit dans un communiqué que vous retrouverez facilement.
Bon, très bien, merci. Allez. Bon, madame Kosciusko-Morizet, je crois que les candidats à la la primaire se sont engagés à soutenir le gagnant, si je puis dire. Est-ce que vous seriez vraiment en mesure de soutenir M. Sarkozy après tout ce que vous avez dit sur lui en début d'émission?
Ah mais moi je suis engagée à soutenir le gagnant et je trouve d'une certaine manière d'ailleurs que c'est curieux qu'il faille le redire si souvent. Dire pour moi c'est la règle du jeu, c'est normal. On fait une primaire pour avoir un débat de sensibilité, pour avoir un débat de projet. On fait une primaire pour que les Français puissent le trancher et pas seulement les militants. Moi je pense que c'est un geste moderne, c'est un geste démocratique. La primaire, quelque part on le salue pas assez parce que je pense que c'est une vraie avancée démocratique. Et la règle du jeu, c'est naturellement que tout le monde soutient le gagnant. Ça marche dans un sens et ça marche dans l'autre.
Un soutien franc et sans arrière-pensée, vous ferez campagne quoi.
Mais oui, moi je pense que de toute façon les Français ont envie de tourner la page de ce qui se passe actuellement. Mais je ferai campagne aussi pour défendre mes idées. Je ferai campagne aussi pour que la primaire soit le moment d'un grand débat entre la droite et le centre. Pardon de vous dire ça, parce que ça me frappe hein, depuis le début de l'émission. Pour que le débat soit de qualité, pour que les Français soient nombreux à aller voter, pour que ce soit vraiment la primaire de la droite et du centre, il faut que toutes les thématiques qui les concernent puissent être sur la table. Je dis ça parce que je pense que le jeu de certains candidats, c'est de faire en sorte que les thématiques ce soient de plus en plus l'immigration, l'identité, la sécurité, ce qui amène une forme d'électorat. Et je pense que ces thématiques-là ont leur place, bien sûr, dans la primaire. Mais je voudrais aussi qu'on parle d'économie. Je voudrais aussi qu'on parle d'école. Regardez, depuis le début de l'émission, on n'a pas une seule fois parlé d'économie, d'école ou de société. Un peu d'écologie, je vous remercie, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chaînes qui posent la question.
On a commenté l'émission de Nicolas Sarkozy, qui effectivement était sur ces thèmes-là.
Mais c'est tout le problème. C'est tout le problème. C'est-à-dire que... Non, mais c'est un vrai enjeu, parce que vous savez, si les sujets de la primaire, c'est des débats sur les multisubstitutions dans les écoles, vous allez avoir des pans entiers de la société, l'électorat, qui ne vont pas vouloir venir voter, qui ne vont pas se sentir concernés.
Les programmes économiques des candidats à la primaire de la droite et du centre sont assez proches, voire très proches. Ils proposent quasiment tous la même chose à peu près.
Enfin, je sais pas, moi je suis la seule à parler d'innovation, à parler de transformation numérique.
40 secondes, qu'est-ce qui vous distingue de Juppé et Sarkozy?
40 secondes, je vous remercie.
Ben non, sur le plan économique.
Sur la question du monde du travail.
Ah, vous êtes la seule à ne pas vouloir l'abrogation de l'ISF,
oui,
c'est ça?
Oui, par exemple. Oui. Mais sur la question du monde du travail, je reviens sur la question du monde du travail qui peut-être concerne quand même plus largement. Je suis la seule à parler de transformation numérique du monde du travail, de parler des évolutions contemporaines du monde du travail. Le débat entre les candidats aujourd'hui se fait comme il aurait pu se faire en 2002 ou en 2007. Pourquoi ? Parce qu'on parle de la fin ou pas des 35 heures, ça c'est un sujet de 2002. On parle de la défiscalisation des heures sup, ça c'est un sujet de 2007. Le sujet aujourd'hui pour les Français qui sont dans le monde du travail, c'est l'ubérisation de l'économie, ça leur fait quoi ? Et est-ce que c'est une chance ou est-ce que c'est un inconvénient ? Et est-ce qu'on peut s'en sortir mieux finalement avec l'ubérisation et la digitalisation de l'économie qu'on s'en est sorti il y a quelques décennies avec la robotisation? Est-ce que ce qui est arrivé au col bleu avec la robotisation, qui a été l'effacement en fait de toute une partie du monde du travail, risque d'arriver aujourd'hui au col blanc avec la numérisation? Moi j'ai des propositions là-dessus, j'ai des solutions là-dessus, j'aimerais qu'on en discute dans la primaire. Je pense que ça fait partie du quotidien des Français, ça fait partie de leurs inquiétudes et ça fait partie de leur avenir.
Faites-nous confiance, on en reparlera forcément. On marque une petite pause avant d'accueillir Augustin Trapenard.